Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump est depuis mercredi soir le troisième chef de l'exécutif américain à être mis officiellement en accusation. La Chambre des représentants du Congrès a approuvé deux chefs d'accusation à son encontre pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il s'agit d'une mesure historique qui va donner lieu à un procès en destitution au Sénat américain et alimenter les tensions partisanes dans un pays profondément divisé. Jean-Roger Bion.
La Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, a voté en séance plénière à 230 voix pour et 197 contre la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir. Elle a ensuite voté à 229 voix pour et 198 contre la mise en accusation du président républicain pour entrave au Congrès dans l'affaire ukrainienne. Un procès devrait être organisé en janvier au Sénat, contrôlé par les républicains qui continuent de défendre Donald Trump et pourront faire obstacle à la procédure. Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait déclaré avant le vote à la Chambre qu'il n'y avait, selon lui, aucune chance que le Sénat destitue Trump. Cette procédure anarchique et partisane est un suicide politique pour le Parti démocrate, a déclaré le président américain lors d'un meeting de campagne à Battle Creek au Michigan, alors que le vote était en cours à la Chambre. Les démocrates accusent Donald Trump d'avoir cherché à faire pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, afin que Kiev ouvre une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden et sur Joe Biden lui-même, le potentiel adversaire démocrate de Trump lors de la présidentielle de novembre 2020. Il lui reproche aussi d'avoir entravé leur enquête en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers, mais aussi via des tentatives vaines d'empêcher d'autres dépositions et d'intimider des témoins.
Afrique maintenant, en Algérie, investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune ce jeudi lors d'une cérémonie officielle à Alger. Vainqueur du premier tour de la présidentielle le 12 décembre, M. Tebboune succède à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le premier ministre, et qui a été contraint à la démission en avril par un mouvement populaire de contestation du régime au pouvoir qui agite l'Algérie depuis dix mois. À Afrique toujours, le président français Emmanuel Macron passera le vendredi de Noël avec des soldats français déployés à l'étranger cette année en Côte d'Ivoire, un pays avec lequel Paris veut resserrer les liens dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État français va partager le dîner de Noël avec un millier de militaires sur la base de Port-Bouet, près de l'aéroport d'Abidjan, où il doit atterrir vendredi en fin d'après-midi. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, font partie du deuxième contingent le plus important de troupes françaises prépositionnées en Afrique, après celui de Djibouti. La visite du président Macron intervient dans un contexte politique tendu en Côte d'Ivoire à 10 mois de la prochaine présidentielle de 2020 et près de 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Toujours en Côte d'Ivoire, l'opposition politique a annoncé hier qu'elle maintenait son meeting prévu samedi lors de la visite du président Macron, mais dans un lieu différent, pour contourner la tentative des autorités ivoiriennes de l'empêcher de se réunir. Le point avec Ekia Badou.
Maurice Kakou-Gikawe, numéro 2 du PDCI, annonçait hier que le meeting se tiendra au stade Séni Fofana de Port-Bouet, une commune populaire d'Abidjan. Ce meeting devait se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Pour Port-Bouet, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé M. Gikawe. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix lancée par le PDCI et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, organise cette rencontre aux allures de campagne pour la présidentielle d'octobre 2020. Emmanuel Macron se rend en visite officielle en Côte d'Ivoire à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
politique au Cameroun. Les députés camerounais ont adopté mercredi un projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du pays où se déroule depuis plus de deux ans un conflit meurtrier qui oppose l'armée à des séparatistes. Ces régions seront désormais autorisées si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée par le président Paul Biya à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, selon la Radio Nationale Camerounaise. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants au Grand Dialogue National convoqué par le président Biya début octobre pour mettre fin à cette crise qui a fait plus de 3000 morts. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Tchad, au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans un village de pêcheurs dans l'ouest du pays par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui multiplie les attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad, à savoir Niger, Nigeria et Cameroun. Le village de Kaïga est situé à une soixantaine de kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. Nous savons que ce sont toujours les éléments de Boko Haram qui écument cette zone. Ils sont donc à l'origine de cette attaque, a déclaré le préfet de la zone, Dimouya Soibébé. Soudan, les Soudanais ont donné jeudi le coup d'envoi à une journée de festivités à travers le pays pour le premier anniversaire du mouvement de contestation qui a conduit à la chute du régime du président Omar al-Béchir après 30 ans de règne autoritaire. Pour rendre hommage aux pionniers de la révolution d'Adbara, à 350 km de Khartoum, un train rempli de centaines de personnes est parti de Bari, près de Khartoum, en direction de la ville ouvrière du Nord-Est, qui avait été le théâtre en décembre 2018 des premiers rassemblements anti-régime après l'annonce soudaine du triplement du prix du pain. La Zambie subit les pires coupures d'électricité de son histoire. Ce sont les effets de la sécheresse qui ralentit sérieusement l'activité économique et affecte la vie quotidienne des habitants. John Lyndon.
Dans les quartiers de Lusaka, la capitale, ces délestages peuvent se prolonger jusqu'à 19 heures par jour. Ces coupures d'électricité alimentent la colère de la population. Ces deux dernières semaines, des manifestants ont caillassé des installations de la compagnie de distribution. Récurrente depuis plusieurs saisons dans toute l'Afrique australe, la sécheresse a fait plonger les réserves d'eau du barrage hydroélectrique des Kariba dans le sud du pays, sa principale source d'énergie. Selon le ministre zambien de l'énergie Mathieu Nkuwa, ces turbines ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité. « Il n'y a plus d'électricité dans la région », a-t-il déploré. « Il n'y a même plus en Afrique du Sud d'où nous importons », a-t-il ajouté. Eskom, le géant public sud-africain de l'électricité qui fournit au pays 95% de son courant, a été contraint la semaine dernière à des délestages massifs à cause des intempéries.
Et pour terminer, le premier forum mondial sur les réfugiés a fermé ses portes hier à Genève en Suisse. L'ONU a salué ce qu'elle a appelé un nouveau virage pour l'aide aux réfugiés. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
8 milliards de dollars, dont 4,7 milliards par la Banque mondiale, ont été promis. Selon le HCR, le secteur privé a émis des annonces qui doivent permettre de donner accès aux réfugiés à au moins 15 000 emplois. Les gouvernements se sont engagés dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'éducation. Ils disent devoir changer leur législation pour faciliter l'accès à l'école pour les enfants. Le HCR s'est félicité des annonces en matière de réinstallation, un programme consistant à installer dans des pays tiers des personnes déjà déplacées. La Commission européenne a prévu de réinstaller plus de 30 000 réfugiés en 2020. Le HCR estime à 1,44 million le nombre de réfugiés en besoin de réinstallation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à assumer collectivement le poids des 26 millions de réfugiés qui ont quitté leur pays, le plus souvent à cause des guerres et d'autres violences.
Et au Liban, le premier ministre Saad Hariri, décrié comme l'ensemble de la classe politique par le mouvement de contestation, a annoncé mercredi ne pas souhaiter être candidat à sa succession. Et ce, à la veille de consultations parlementaires destinées à permettre la formation d'un nouveau gouvernement. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.